Apparu en 1982, les monstrueuses capacités de stockage du compact disque vont très vite motiver des ingénieurs à en faire un support de données gravables. Soit pour les professions du son, de par ses qualités de restitution, soit pour l'informatique, parce que changer des disquettes, ça lasse. Petit problème, avoir un standard pour le formatage d'un CD comportant de la donnée. Car chaque constructeur informatique était parti pour concevoir son format de fichier à lui, ce qui aurait rendu le CD-ROM incompatible d'un fabricant à l'autre. À l'époque, échanger une simple disquette entre, disons, Mac et PC était une horreur sans nom. Cette normalisation se fera en 1988 avec le Yellow Book et la norme ISO 9660 qui reprendront le format iSierra. Le nom iSierra vient du casino où eurent lieu fin 1995 les négociations entre les différents fabricants d'ordinateurs. Si, si, véridique. Les premiers CD-ROM vont arriver dès 1985 avec l'encyclopédie électronique Grolier sur PC. La première console de jeu avec CD-ROM sera une extension, la PC Engine, en 1988. À partir de 1995, pratiquement tous les magazines d'informatique en kiosque ne proposent plus que des CD-ROM en encart. Tous les chemins menant au CD-ROM, adieu la disquette. Deuxième problème, construire une solution même semi-professionnelle pour graver un CD à l'unité. Durant les années 1980, on entendit parler d'appareils plus ou moins expérimentaux, énormes et très coûteux. J'ai le souvenir d'un engin qui utilisait une cire chauffée, ce qui vous fait une très belle jambe d'avoir un substrat instable. C'est là encore Sony et Philips qui vont normaliser tout ça dans le Orange Book en définissant trois technologies. Le MOD, magnéto-optique, le CD Write Once et le CD Rewritable. La première technologie uniforme à arriver sur le marché professionnel sera le disque magnéto-optique, un support réinscriptible, un CD hybride, à surface magnétique enfermée dans un boîtier châssis. À l'enregistrement, le laser en puissance d'enregistrement chauffe la surface du disque, ce qui lui fait perdre son magnétisme à la température de Curie, un effet utilisé dans les bouilloires, rice cookers et plus récemment les disques durs HAMR de Seagate. L'info magnétique étant effacée, une nouvelle peut être enregistrée par une tête magnétique derrière et en refroidissant, l'information se fige. La surface du disque renvoie différemment la lumière en fonction de sa magnétisation grâce à l'effet Kerr magnéto-optique et sera lu par le laser en mode lecture. Mais le principe d'une cartouche et l'effet Kerr utilisé limitent la compatibilité qu'aux appareils de ce format industriel. L'usage du MOD restera très confidentiel et coûteux. Le disque magnéto-optique enfantera le mini-disque de Sony, mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'ai fait la moitié de ma chronique, qui durera sûrement le temps de gravure d'un CD en x16, et on n'est même pas arrivé au cœur du sujet. Arriveront au tournant des 1990 les supports et appareils CDWO, Write Once, enregistrables une seule fois. Le principe est de faire émettre le laser 10 fois plus fort, à 10 milliwatts, montant la température de support à 250 degrés pour faire fondre une surface intermédiaire entre la pellicule métallique et le substrat pour graver un creux. La gravure joue sur des changements très rapides de puissance du laser entre gravure et lecture, ce que l'outil sait parfaitement faire. La différence fait varier le niveau de réflexion du disque entre 40 et 70%, ce qui est suffisant pour la plupart des lecteurs. Ces supports seront très vite renommés CD-R et s'imposeront car lisibles sur la plupart des lecteurs de CD audio et de CD-ROM. Le format devenait enfin enregistrable et interchangeable. Le disque vierge peut sembler d'une couleur unie, verte ou bleue, selon la qualité du substrat choisi, mais il comporte une subtilité microscopique dans la partie réfléchissante. Une spirale pré-imprimée pour guider le laser, le pré-groove. En plus de guider la tête, cette spirale indique la bonne vitesse de rotation grâce à une oscillation à 22,1 kHz. L'astuce permet de réduire considérablement la complexité des enregistreurs pour un prix modique. Simple, basique. Les substrats CDR les plus courants sont la cyanine de teinte bleue, donnant une couleur verte lorsque la couche métallique est en or, la phtalocyanine d'une teinte vert clair, donnant une couleur dorée lorsque la couche métallique est en or, la ZO d'une teinte bleue foncée très marquée. Évidemment, ces supports ne sont pas éternels et ont tendance à se décolorer, en fait à se décoller depuis le bord extérieur. Sur des tests que j'ai effectués en voulant relire les archives de radio éphémère gravées en 1998 et conservées parfaitement à l'abri de la lumière et de la chaleur pendant 22 ans, les meilleurs résultats de stabilité dans le temps semblent obtenus avec les substrats AZO. À comparer aux 100 ans annoncés des CD imprimés, alors que certains commencent à se détériorer 20 ans après leur achat. Une des premières évolutions du CDR fut de permettre d'ajouter en plusieurs fois des données sur un CD gravé, ce que l'on appelle un enregistrement multisession, en créant plusieurs tables d'allocation qui positionnent chaque index, mais il est alors impossible d'effacer les données pour libérer de la place sur le support. Le CDRW corrigera ce souci 5 ans plus tard en proposant un substrat qui pouvait revenir à son état vierge. À l'écriture, le substrat est chauffé entre 500 et 700 degrés, ce qui le fait changer d'un état cristallin à amorphe, faisant varier son indice de réflexion. Le contraste entre mont et vallée n'est alors que de 15 à 25%, ce qui fait qu'une bonne partie du parc de lecteurs CD audio et CD-ROM n'arrive pas à les lire. Le CD-RW sera plus associé à un usage informatique. Et d'ailleurs, la plupart des CD-RW vierges disposent d'informations hard-codées sur la vitesse minimale d'enregistrement, souvent 4 fois supérieure à la lecture d'un compact disque audio. Et il proposait à Primodic une capacité largement supérieure au disque dur de l'époque, ce qui va démocratiser une opération d'hygiène élémentaire, les sauvegardes. Un peu comme quand on a inventé le savon au Moyen-Âge, l'ambiance a radicalement changé dans les open space.